Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures, Jean-Claude Mabéa.
Nous sommes le mercredi 27 novembre. Madame, monsieur, bonjour et merci de suivre la première édition de l'actualité d'ici et d'ailleurs sur Radio de la Paix, au sommaire de ce journal. Exploitation minière en Côte d'Ivoire, 530 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'investissement du projet de la mine d'or de Tanda qui vient d'être découverte par un groupe minier avec une production d'environ 150 tonnes sur toute la durée de la vie du projet. On en saura plus en début de ce journal. Lutte contre le terrorisme. Selon certains médias nationaux et internationaux, un réseau de l'organisation État islamique aurait été démantelé en Côte d'Ivoire. Vous aurez les éclairages de William Assanvo, spécialiste des questions sécuritaires et chercheur principal à l'Institut d'études et de sécurité, ISS, dans quelques instants. Guerre au Proche-Orient. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur au Liban tôt ce matin. On en saura un peu plus dans ce journal. Et puis, après la revue des titres des journaux de Jean-Mélène Bitti, Paul-Bénédicte Boulou recevra dans le cadre de l'invité de la rédaction le professeur Lamarche Aline Aka, maître de conférence, agrégé en droit et titulaire de la chaire à l'université Alassane Ouattara de Boaké pour nous parler du genre et des droits fonciers ruraux des femmes en Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. On s'intéresse à présent aux audiences du président de la République. Environ 530 milliards de francs CFA, c'est le coût de l'investissement du projet de la mine d'or de Tanda qui vient d'être découverte par le groupe Endeavour Mining. L'information a été portée à la connaissance du chef de l'État, Alassane Ouattara, hier mardi par le président directeur général du groupe minier. Junior Cardin était au palais présidentiel, suivant son compte-rendu.
C'est tout souriant que le président de la République et ses invités ont reçu la presse pour une des rares fois dans la grande salle d'audience du Grand Palais après leur rencontre. Alassane Ouattara est le premier à prendre la parole.
Je reçois en ce moment le président du groupe Endeavour, un groupe minier qui est déjà installé en Côte d'Ivoire, notamment la mine Titi. Et là, il a une très bonne nouvelle à nous annoncer.
Puis, sans tarder, Yann Kokeril, le président directeur général du groupe Endeavour Mining, annonce la nouvelle en question.
Le groupe Endeavour va réaliser son quatrième investissement avec la mine de Tanda qui va en principe produire son premier lingot d'or à la mi-2028. Donc c'est un projet de classe mondiale qui éventuellement va générer plus de 4000 emplois directs et indirects. Alors c'est un projet qui va produire sur toute la durée de la vie d'environ 150 tonnes d'or avec un investissement d'environ 530 milliards de francs CFA.
Avant ce groupe minier, le président de la République a reçu en audience Monseigneur Ignace Bessidogo, archevêque d'Abidjan, venu lui faire ses civilités suite à sa prise de possession canonique du siège, comme il l'a fait la veille à l'Assemblée nationale, non sans rappeler les grands chantiers de l'Église en cette période.
L'Église est au cœur du pays. Elle a un rôle à jouer dans la marche du pays. Et ce rôle passe d'abord par la prière, parce que c'est notre métier pour que le peuple se sente en harmonie, qu'il y ait la paix.
Monseigneur Ignace Bessidogo a dit être heureux de l'accueil qui lui a été réservé par le président de la République et qu'il a quitté très satisfait par ailleurs.
Nous l'évoquions en titre, lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire, un réseau de l'organisation État islamique aurait été démantelé. C'est une information relayée récemment par des médias nationaux et internationaux qui précise que le coup de filet a été possible grâce à une collaboration entre les services de renseignement ivoiriens, américains et français. Spécialiste des questions sécuritaires, William Assanvo, chercheur principal à l'Institut d'études et de sécurité, ISS, fait noter que cette organisation terroriste qu'est l'État islamique est présente dans plusieurs zones de l'Afrique de l'Ouest et cette information véhiculée par la presse n'est pas étonnante. Écoutons William Assanvo.
Alors, l'État islamique, c'est un des principaux groupes qu'on peut qualifier de terroristes. L'État islamique est le compétiteur de Al-Qaïda actuellement au niveau international, mais aussi au niveau régional. C'est un groupe qui est actif en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, dans le bassin du lac Tchad, au nord-est du Nigeria, en Afrique centrale, et aussi en Afrique australe. Donc c'est un des principaux groupes terroristes qui continue à persister par l'existence justement de cellules dormantes qui sont mises en place dans différentes régions du monde.
Une cellule de l'État islamique aurait été démantelée en Côte d'Ivoire, selon la presse. C'est du domaine du vrai?
Alors, pour l'instant, on parle d'individus présumés appartenir au groupe État islamique. Il y a effectivement eu cette information de presse qui a été communiquée et il me semble avoir compris qu'une source gouvernementale ivoirienne aurait confirmé discrètement à un média international l'arrestation de 6 hommes suspectés d'appartenir au groupe État islamique. Donc pour l'instant, impossible de dire avec certitude ce qu'il en est, peut-être en attendant d'avoir une communication officielle du gouvernement de l'autorité ivoirienne. Donc pour l'instant, c'est des informations de cette nature qu'on a.
Spécialiste des questions sécuritaires, William Assanvo, chercheur principal à l'Institut d'études et de sécurité, ISS, était en ligne avec Soro Adams. Depuis le lundi dernier, se tient à Abidjan une réunion hybride d'experts et de ministres sur la stratégie régionale de résilience pour l'Afrique de l'Ouest. Initiée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, cette rencontre vise à examiner et valider la stratégie régionale en vue de faire face aux défis futurs du développement durable dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mel Emmanuel.
Présenter le document complet de la stratégie de résilience, participer à des discussions d'experts et obtenir l'approbation officielle des ministres participants, tels sont les points constitutifs de l'objectif général de cette réunion. Elle s'axe sur quatre piliers essentiels, ici présentés par Parfait Kouadio, représentant du ministre de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition écologique de Côte d'Ivoire.
Le premier pilier, donc, c'est sur la gouvernance, le deuxième, l'économie, le troisième, la société, et le dernier pilier, l'environnement. Ces piliers interconnectés doivent guider notre action et inspirer nos politiques dans notre région.
La représentante résidente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire est revenue sur l'importance de cette réunion quant aux résultats attendus. Fantasissé.
Cette réunion marque une étape importante dans des efforts collectifs visant à renforcer la région dans un esprit de stabilité, de paix et de développement régionaux.
Poursuivant, elle a réitéré sa confiance aux participants quant à la mission qui leur est confiée.
Nous avons donc une mission très critique devant nous. Mais je suis convaincue que vous êtes tous à la hauteur de la tâche.
Ouverte depuis le lundi 25 novembre 2024, cette réunion des experts régionaux prendra fin le 29 novembre prochain. Il est à noter qu'elle est initiée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, et le soutien financier des gouvernements de la Suède et du Danemark.
Tout autre sujet dans cette édition, après deux jours d'intenses travaux marqués par des panels de haut niveau, des échanges de bonnes pratiques, la 12e édition du Forum économique du patronat ivoirien s'est achevée en début d'après-midi du mardi sur une série de recommandations lues par la présidente du comité scientifique, Roseline Barouin-Estrait.
Encourager les startups de services logistiques par la création d'incubateurs et l'adoption d'un cadre réglementaire adapté, étendre la modernisation de nos infrastructures, ports, routes, télécoms, énergie, en dehors des capitales et des grandes villes. Fixer un quota aux femmes entrepreneurs dans l'accès aux marchés publics, vulgariser l'existence des organismes de financement auprès des femmes entrepreneurs et améliorer leur éducation financière, réduire le décalage entre les formations académiques et les besoins du marché du travail en développant de nouveaux modes d'apprentissage, s'appuyant sur les nouvelles technologies et intégrant la culture locale ainsi que les compétences du 21e siècle. Intégrer le sport en tant qu'industrie créatrice de valeur et d'emploi dans les stratégies de développement national, encourager les partenariats publics et privés pour financer des projets sportifs, notamment à travers des incitations fiscales. Intégrer les ICC dans des politiques transversales, tourisme, numérique, éducation, pour améliorer leur contribution à l'économie du pays. Mettre en place des fonds spécifiques et des garanties de prêts adaptées aux PME du secteur et développer des infrastructures culturelles, en particulier à l'intérieur du pays.
C'était à l'instant la présidente du comité scientifique de la 12e édition du Forum économique de la CGC Académie, Roseline Barouin. Rappelons qu'initié en 2012, ce forum est une plateforme d'échange sur les problématiques majeures du secteur privé en Côte d'Ivoire et sur le continent africain, mais aussi un espace d'accompagnement des jeunes entrepreneurs et start-up. Le thème retenu cette année était « Quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines ?» On poursuit ce journal pour parler du projet Emploi Jeune et Développement des compétences PEJEDEC. Dispositif majeur du gouvernement ivoirien pour répondre à la problématique de l'insertion des jeunes qui en est à sa phase 3 après l'accord signé avec son partenaire financier, le groupe de la Banque mondiale. À 2 ans de la fin de ce projet, une revue à mi-parcours a lieu depuis lundi pour évaluer les progrès réalisés et formuler des recommandations en vue d'une exécution efficace du projet. Les explications de Mata Touré.
Débuté depuis mai 2022, la phase 3 du projet Emploi Jeune et Développement des compétences PEJEDEC 3 visait à asseoir la pérennité des acquis des phases 1 et 2 du projet, mais surtout à renforcer le mécanisme de coordination entre les secteurs publics et privés. Toile Herman est coordonnateur du BCP Emploi.
Sur les effectifs, on a deux composantes. On a une première composante où les effectifs à date sont atteints. C'est la deuxième composante où on devrait donc donner un coup d'accélérateur. Et il y a également des réformes que le projet doit accompagner. Donc il va falloir discuter pour voir où on en est, quelles sont les recommandations.
Pour sa part, Yves Yonsem, chargé de projet à la Banque mondiale, a souligné l'importance de faire le point sur l'état d'avancement du projet à mi-parcours.
En faisant cette revue à mi-parcours, on fait le point, on essaie de voir les choses qui fonctionnent et pour les accélérer, les choses qui fonctionnent peut-être un petit peu moins bien pour faire des corrections. Et donc cette semaine, voilà, les ateliers, les différentes sessions auront pour but de faire le point sur les différentes composantes du
PEJEDEC. On rappelle que l'accord de prêt pour la troisième phase du PEJEDEC est d'un montant de 132 millions d'euros en faveur d'un plus grand nombre de jeunes à travers une intensification et une extension du développement de leurs compétences. On compte 120 000 jeunes bénéficiaires directs et 300 000 bénéficiaires indirects.
Il est 7h passé de 12 minutes à Yamoussoukro, c'est la même heure à Bamako au Mali, où Djoliba TV n'émet plus depuis hier mardi et l'entrée en vigueur du retrait de sa licence. La haute autorité de la communication du Mali, HAC, avait notifié sa décision jeudi à la chaîne privée malienne. Une sanction prise à la demande de l'instance burkinabé de régulation, le Conseil supérieur de la communication, qui n'avait pas apprécié une émission au cours de laquelle avaient été tenus des propos mettant en doute la véracité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina Faso. La HAC a donc infligé le plus sévère des coups à Djoliba TV, contrainte de cesser ses activités. Mais une médiation de la dernière chance tentée par la Maison de la Presse du Mali, qui regroupe les organisations de journalistes du pays, est toujours en cours. Hier, en fin de journée, dans un communiqué, la Maison de la Presse a rappelé que la coupure du signal n'entrave pas la procédure de recours gracieux et la médiation de la commission, rapporte l'AFP. Et puis, guerre au Proche-Orient, un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur tôt ce mercredi au Liban après plus d'un an d'hostilité transfrontalière et 2 mois de guerre ouverte entre l'armée israélienne et le mouvement libanais armé soutenu par l'Iran. Peu après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à l'aube, des habitants du sud du Liban et de la plaine de la Bekaa ont commencé à retourner dans leurs villages formant des convois de véhicules, a rapporté l'agence officielle libanaise ANI. Le président américain Joe Biden a salué mardi l'accord de cesser le feu, un nouveau départ pour le Liban et une bonne nouvelle pour laquelle les États-Unis et la France œuvraient depuis des semaines, nous apprend l'AFP. Nous recevons à présent Jean-Mylène Bitti pour la revue des titres des journaux parus ce mercredi. Bonjour Jean-Mylène.
Bonjour Mabéa, bonjour à tous. L'actualité de ce mardi 27 novembre est dominée par la découverte d'un gisement de taille mondiale dans le département du Tanda. Cette annonce, communiquée au chef de l'État, est largement relayée par plusieurs journaux d'aujourd'hui. Fraternité Matin ouvre le bal avec un titre fort. Production d'or, un gisement de taille mondiale découvert à Tanda. D'autres publications comme L'Avenir, Le Patriote et Le Matin mentionnent également cette découverte, soulignant son importance pour l'exploitation des ressources minières et énergétiques. Sur le front judiciaire, le procès de Damana Diapikas, cadre du PPACI, se tient ce matin et est rapporté par plusieurs journaux. Le quotidien d'Abidjan lui annonce en une poursuite judiciaire contre Damana Diapikas. Le PPACI invite ses militants à la mobilisation. Dano Djedjé, quant à lui, dans la voix originale, souligne que cet harcèlement judiciaire ne peut continuer. Le temps précise que Pikas doit comparaître à 13h. Pour faire complet sur le parti de Laurent Gbagbo, le temps aborde la candidature de Laurent Gbagbo pour l'élection présidentielle de 2025 en titrant « Candidat à la présidentielle de 2025, pourquoi Gbagbo sera sur la liste électorale ?» De l'autre côté, l'avenir lui émet des réserves quant à l'implication potentielle de Gbagbo sur le scrutin. D'autres journaux relatent les sujets politiques variés, notamment la rencontre de Tidiane Thiam avec la diaspora ivoirienne à Paris. Le Bélier souligne que Thiam a fustigé Ouattara et fait de fortes promesses, tandis que l'Héritage affirme que Thiam met la diaspora à ses pieds. « Je veux être président en 2025 pour changer tout ce qui doit changer », une déclaration relayée par le Nouveau Réveil sur sa couverture. En revanche, le Matin interprète cette sortie de Thiam comme un signe de panne sèche, d'offres et d'arguments politiques à moins d'un an de la présidentielle. Pour clore ce chapitre politique, le Jour Plus évoque une date probable de l'annonce de la candidature du président Ouattara qui se présente pour un deuxième mandat à la tête de la Troisième République. En ce qui concerne le procès des gendarmes impliqués dans une affaire de trafic de drogue débutée hier, le Canard déchaîné annonce en une « Trafic de drogue, des gendarmes ont comparu hier ». Enfin, terminons cette revue par un fait divers tragique. Un villageois a été retrouvé mort à Dembokro avec le crâne fracassé alors qu'il se rendait à son champ. Voilà en substance l'essentiel des titres de vos journaux de ce jour. Merci à vos journaux et bonne lecture.
Merci à vous, Jean-Mélène Bitti. On vous retrouvera vers la fin de l'édition de 8h. Dernière articulation de ce 7h, l'invité de la rédaction. Et l'invité de ce jour est le professeur Lamarche Aline Aka, maître de conférence agrégé en droit et titulaire de chaire à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Elle nous éclaire sur les droits fonciers ruraux des femmes en Côte d'Ivoire. C'était au cours des Assises nationales sur le foncier rural qui se sont tenues les 19 et 20 novembre 2024 à Abidjan. Professeur Lamarche Aline Aka a échangé avec Paul-Bénédicte Bolou sur les défis et les réalités auxquelles font face les femmes dans ce domaine. Entretien.
Professeur Lamarche Aline Aka, bonjour. Aux sorties de ces assises, donnez-nous une vue d'ensemble sur la situation foncière en Côte d'Ivoire et son lien justement avec les questions de genre.
En Côte d'Ivoire, on a une situation foncière assez compliquée parce qu'on a une forte pression foncière et ça à tous les niveaux, que ce soit au niveau rural qu'au niveau urbain. Parallèlement à ça, et peut-être justement à cause de cette pression foncière extraordinaire, il y a une dynamique foncière aujourd'hui en matière textuelle, aussi bien en foncier rural qu'en foncier urbain. Donc, du coup, on a une pression foncière extraordinaire en Côte d'Ivoire parce qu'avec toutes les activités agricoles, minières et tout ça qui créent une forte pression, eh ben, on a parallèlement à ça, ou en réponse à cela, une dynamique textuelle, c'est-à-dire au niveau des ministères en charge de l'agriculture, de l'urbanisation. On a effectivement une multitude de textes qui sortent et qui malheureusement ne sont pas forcément bien connus par les populations. Ces textes interviennent pour essayer d'améliorer la situation, mais comme ils sont nombreux, qu'ils sont mal connus, on va dire que pour le moment, on est encore dans une situation de grand flou. Voilà, parce que ces textes sont très mal connus et donc n'arrivent pas encore à réguler la situation et on voit les conflits continuer de se multiplier devant les tribunaux, que ce soit aussi bien en matière de foncier rural qu'en matière de foncier urbain. Donc au jour d'aujourd'hui, la question foncière en Côte d'Ivoire est extrêmement sensible, pour ne pas dire explosive.
Quels sont les obstacles à la mise en œuvre de ces initiatives?
Bon, disons que par exemple, pour l'accès à la femme, la première difficulté, ce sont les logiques coutumières qui, pendant longtemps, ont cantonné la femme dans une situation de mise sous tutelle. Et donc, la femme qui est sous tutelle de son mari, de son père, de ses frères, et donc n'y peut pas accéder à la terre, comme on l'a dit, soit parce que au niveau de sa famille biologique, on lui reproche d'aller vivre après dans une autre famille, donc avec la famille de son mari. Et parce que dans la famille de son mari, on lui dit qu'elle vient d'ailleurs et qu'en cas de divorce ou en cas de veuvage, elle retournera chez elle. Et donc, elle se trouve un peu prise comme ça entre deux feux et dans l'impossibilité d'obtenir une terre à elle. Donc, toute sa vie, elle travaille pour d'autres personnes, en fait.
En quoi une plus grande participation des femmes dans la gestion foncière peut-elle contribuer à une gouvernance plus inclusive?
Justement, déjà, elle donne énormément d'elle-même. Mais peut-être d'accéder à la terre. Déjà, c'est une reconnaissance de leur travail parce que, on le dit, tout ouvrier a droit à son salaire. Ne serait-ce que parce qu'elle travaille véritablement, elle donne de sa personne, elle est en droit d'obtenir les rétributions qui conviennent, qui correspondent à cette implication personnelle. Deuxièmement, parce que c'est une motivation. C'est une motivation. Ça lui donne envie de rendre encore plus. Voilà, c'est-à-dire, elle va s'investir encore plus dans le travail, elle va le faire encore mieux. Et troisièmement, c'est une contribution véritable, réelle à la vie de famille. Combien d'hommes, on le dit souvent, n'abandonnent pas leurs enfants ou ne se préoccupent pas de choses qu'ils considèrent prioritaires par rapport au bien-être de leurs enfants, mais au bien-être de leur famille. Mais combien de femmes, en revanche, laissent de côté leurs enfants pour aller faire autre chose? Ça, on le sait, ça c'est une réalité, ce sont des faits. Voilà, donc qu'on puisse reconnaître la propriété des terres à la femme, c'est en gros de reconnaître à l'enfant ce qui un jour lui sera dû, c'est-à-dire le produit du travail de ses parents. C'est vraiment une question de bonne gouvernance, vraiment pour moi, de la société qui justifie aujourd'hui qu'on donne à la femme cet accès-là à la propriété foncière.
Alors parlons de la stabilité sociale. Quel est le lien entre l'accès équitable au foncier et la construction d'une paix durable?
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous le remarquerez, la question foncière revient toujours dans les questions politiques. Qu'on le veuille ou pas, c'est intimement lié. Voilà, vous voyez, quand il y a eu des problèmes à l'époque, en 2000, quand il y a eu Marco VI, l'une des revendications, c'était quoi? C'était la terre. Quand vous sortez de la Côte d'Ivoire, vous allez ailleurs, vous allez au niveau d'autres pays où vous avez du terrorisme, où vous avez du djihad et tout ça, vous allez voir que tous ces groupes-là commencent par faire quoi? Commencent par se chercher un espace, un territoire. Donc, le territoire, c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est la politique. Donc, maîtriser la terre, c'est maîtriser le territoire, c'est maîtriser la population. Ça va ensemble.
Quel message clé souhaitez-vous transmettre aux auditeurs sur ce sujet?
Moi, je dirais que c'est un combat dont les femmes doivent se saisir elles-mêmes. Parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que de vouloir défendre quelqu'un qui ne veut pas être défendu. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est extrêmement compliqué. Donc, si les femmes elles-mêmes elles ne se saisissent pas de ce combat-là. On aura beau faire des séances ici, on aura beau faire des conférences, on aura beau faire toutes les belles déclarations qu'on veut, la situation ne changera pas. Vous voyez, parfois, par exemple, on essaie de mettre en place des dynamiques. J'ai parlé tantôt du fait que, par exemple, dans les comités villageois de gestion foncière rurale, on impose la représentante des femmes. Mais vous allez dans certains endroits-là, elles ne veulent pas venir parce qu'elles ne veulent pas gêner, elles ne veulent pas mettre mal à l'aise les hommes parce qu'elles ne s'intéressent pas trop. Quand vous êtes à ce niveau-là, vous faites comment? Donc, c'est un combat des femmes pour les femmes et ça doit se faire par les femmes.
Merci infiniment, professeur Lamarche Adinaka.
Je vous en prie.
Voilà, invité de la rédaction de ce jour, professeur Lamarche Aline Aka, maître de conférence et agrégé en droit et titulaire de chaire à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, répondait aux questions de Paul-Bénédicte Bolou. Cet entretien marque la fin de ce journal, le rappel des titres. Exploitation minière en Côte d'Ivoire, environ 530 milliards de francs CFA. Seul le montant de l'investissement du projet de la mine d'or de Tanda qui vient d'être découverte par un groupe minier avec une production d'environ 150 tonnes sur toute la durée de la vie du projet. Lutte contre le terrorisme. Selon certains médias nationaux et internationaux, un réseau de l'organisation État islamique aurait été démantelé en Côte d'Ivoire. Vous avez suivi les éclairages de William Assanvo, spécialiste des questions sécuritaires et chercheur principal à l'Institut d'études et de sécurité dans cette édition. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention. Rendez-vous à 8h pour une nouvelle édition de l'actualité sur Radio de la Paix.
Radio de la Paix, la voix de la diversité. We'll